السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى في cette soirée du samedi 6 Jumad al-Ula 1435 de l'Hégire, correspondant au 8 mars 2014, d'après le calendrier grégorien. Tayyib. Nous sommes, inshallah ta'ala, au cours numéro 43 du livre Aqidat al-Tawhid de Cheikh. Pour rappeler un peu, inshallah ta'ala, rappelez-vous, inshallah ta'ala, donc on va récapituler un peu, qu'on est toujours dans le cinquième chapitre. Et le cinquième chapitre contient lui-même quatre ou cinq sous-chapitres. Le premier chapitre, inshallah, donc le cinquième chapitre, ce que l'on doit croire à l'égard du messager, de sa famille, de ses compagnons. Premier sous-chapitre, l'obligation de l'aimer et de l'honorer, sallallahu alayhi wa sallam, et de ne pas exagérer. Deuxième sous-chapitre, l'obligation de lui obéir, sallallahu alayhi wa sallam, et de le prendre comme modèle. Troisième sous-chapitre, la légitimité de la prière, la légitimité de la prière et de la salutation sur le messager, alayhi salatu salam. Quatrième sous-chapitre, les mérites de la famille du prophète, alayhi salatu salam, et notre devoir envers eux, sans laxisme ni excès. C'est le quatrième cours, c'est le cours d'aujourd'hui, inshallah ta'ala. Il reste, inshallah ta'ala, le cinquième sous-chapitre. Je vérifie, cinquième sous-chapitre, les mérites des compagnons sera le prochain cours, inshallah ta'ala. Autre chose, normalement aujourd'hui, j'avais dans l'intention de faire un cours spécial sur yani, comment aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et yani, quels sont les signes de son amour, etc. Ensuite, quand j'ai commencé à préparer, j'ai vu que c'était long et que ça demandait un certain temps. C'est pour cela que je le laisserai, inshallah ta'ala, pour un peu plus tard, mais je suis en même temps en train de l'élaborer, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup de traductions de versets, de hadiths, etc. Al-Muhim, inshallah ta'ala, c'est promis qu'on le fera très bientôt, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, les mérites de la famille du prophète, alayhi salam salam, et notre devoir envers eux, sans laxisme ni excès. Cheikh Fouzan, hafidhahullah ta'ala, a dit, il a dit, la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont ses proches, qui n'avaient pas le droit à l'aumône. Naam. Sa famille, ce sont ses proches, qui n'ont pas droit à l'aumône. Ce sont les familles de Ali, de Ja'far, d'Al-Abbas, les fils d'Al-Harith, Ibn Abd al-Muttalib, et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses filles. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Il parle des épouses du prophète, alayhi salam. Il a dit: restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam. Il a dit accompagnez, accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète, aux gens de la maison du prophète, et vous purifier pleinement. Je répète, restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam, c'est-à-dire Jahiliya. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser, qu'est-ce qu'il veut? Il veut seulement vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète et vous purifier pleinement. Imam Ibn Kathir, qu'Allah Ta'ala lui accorde sa miséricorde, a dit: il n'y a pas de doute pour celui qui médite le Coran que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont comprises dans sa parole. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète et vous purifier pleinement. C'est-à-dire ce verset. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète et vous purifier pleinement. Pourquoi il a dit comme ça, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala? Car les rawafid et les chiites disent non. Disent les épouses du prophète Aslam ne sont pas comprises dans ce verset. Il dit, ils disent Allah Ta'ala est en train de parler seulement de sa famille proche, c'est-à-dire sa fille Fatima et les descendants. Il a dit quant à les épouses, c'est-à-dire Aïcha et Hafsaya, non, 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 ça rentre pas. Naam. Et Sunna on dit, ça rentre. Naam. Ça rentre. Ibn Kathir a dit, il n'y a pas de doute pour celui qui médite le Coran que les épouses du prophète alayhi salam sont comprises dans sa parole. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète et vous purifier pleinement. Cheikh Fawzan dit, hafidhahullah ta'ala, le contexte du verset est en effet en rapport avec elle, avec ses épouses. À savoir que Allah ta'ala a dit juste après ce verset, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. Il a dit, Ahzab 34, et rappelez-vous ce qui dans vos foyers est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Cheikh Fawzan dit, c'est-à-dire, mettez en pratique ce qu'Allah Ta'ala fait descendre sur son messager comme Coran et Sunna dans vos maisons. Cette interprétation a été adoptée par Qatada et d'autres interprètes du Coran. Cheikh dit, Hafidhahullah Ta'ala, rappelez-vous ce bienfait qu'Allah Ta'ala vous a spécialement accordé en dehors des autres gens. C'est quoi? Le fait que la révélation descende dans vos maisons en dehors du reste des gens. Naam. Subhanallah al-Adim. Regardez ce bienfait. Le Coran, naam, la législation descend dans vos maisons, mais pas dans les maisons des autres gens. Subhanallah al-Adim. Aïcha, radiyallahu ta'ala, la véridique, la fille du véridique Abu Bakr, qu'Allah les agrée, est à la tête de celle à avoir bénéficié d'un tel avantage et la plus privilégiée par cette miséricorde répandue, car la révélation n'est descendue sur le messager d'Allah, alayhi sallam, dans le lit d'une femme autre que Aïcha, qu'Allah ta'ala l'agrée, comme le prophète, alayhi sallam, lui-même l'a mentionné. Je répète, mais Aïcha, la véridique, la fille du véridique Abu Bakr, contrairement aux ennemis d'Allah, les Rawafid, c'est qui le plus grand ennemi? C'est Abu Bakr. Par conséquent, c'est aussi quoi? C'est aussi sa fille Aïcha. Et le deuxième plus grand ennemi, c'est qui? C'est Omar ibn Khattab. Et, radiallahu ta'ala, et par conséquent, sa fille aussi Hafsa, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Essaye d'attaquer le père, en même temps tu as attaqué les descendants. Dis le père n'est pas bien, donc les descendants ne sont pas bien aussi. Vous avez compris? C'est pour ça que il y a quelqu'un, un ennemi d'Allah juré, d'Allah, qu'Allah Ta'ala le maudisse dans cette vie et dans l'au-delà. Un Koweïtien, et alhamdoulilah, on lui a enlevé la nationalité au Koweït. On l'a enlevé. Il s'est enfui, il vit maintenant dans Bilad al-Kufr. Il vit chez les Anglais. Il vit en Angleterre. Adoul s'appelle Habib Yasser. Qu'est-ce qu'il fait? Il est passé dernièrement. Pourquoi déjà on lui a enlevé la nationalité? Quand il dit que Aïcha fait la fornication, etc. Mouhim. Tous les rawafides disent cela. Mais lui, yani c'est un, comment dirais-je, c'est un da'i, un prêcheur pour cela. Non. Il est passé à la. Il a fait une assise ou deux ou trois, je ne sais pas combien, qu'Allah Ta'ala le maudisse, spécialement pour montrer, non pas que Aïcha a fait la zina, mais comment qu'elle l'a faite, avec les détails. Comment l'homme est rentré, comment ils se sont rencontrés, comment elle a enlevé les vêtements, comment ceci. Qu'Allah Ta'ala le maudisse dans cette vie et dans l'au-delà. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala le maudisse dans cette vie et dans l'au-delà. Et lui-même, cette personne lui-même, le maudit, a fait aussi un cours spécialement sur Omar ibn Khattab pour montrer qu'il était malade. Malade de quoi? Malade de comment que ça s'appelle? D'homosexualité. Et que Omar ibn Khattab, il dit comme ça, c'est quelqu'un de malade, et à chaque fois pour qu'il guérisse, il a besoin d'un homme. Qu'Allah Ta'ala le maudisse dans cette vie, dans l'au-delà. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils disent ici? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Omar Al-Khattab, si vous voulez aussi voir yani, à quel point les Rawafid sont yani, le détestent et sont yani, ses ennemis jurés, subhanallah, vous pouvez voir sur Internet le mausolée, c'est-à-dire ce qu'ils ont construit sur qui? Sur Abu Lu'lu' al-La'in, le maudit. Abu Lu'lu'a, qu'Allah Ta'ala le maudisse. Un quoi? Un quelqu'un qui a adoré le feu. Vous savez, celui qui a tué Omar Mokhtar, c'est Abu Lu'lu'a. C'est quelqu'un qui a adoré le feu, Min Majus. Ils ont construit sur lui, sur sa tombe, un grand mausolée. Naam. Et, yani, c'est pas seulement une tombe. C'est yani que pour aller le voir là-bas, naam, c'est pas facile. Pour y rentrer, tellement il y a du monde, tellement. Ils ont construit dessus comme un temple pour aller visiter qui? Celui qui a tué Omar al-Khattab, qui a assassiné Omar al-Khattab, qu'Allah Ta'ala le maudisse. Quelqu'un qui, un kafir qui a adoré le feu. Naam. Il l'a tué spécialement parce que yani, il détestait le sunna, il détestait tout. Mouhim. Là-bas, c'est écrit en grand comme ça. Abu Lu'lu' al-Fayrouz. C'est écrit qu'Allah Ta'ala l'agré. Celui qui ils ont écrit celui qui a tué l'ennemi d'Allah, Omar al-Khattab. Subhanallah al-Azim. Et c'est écrit là-bas devant sa tombe. Quand tu rentres à l'intérieur, quand tu es à l'intérieur du mausolée, tu arrives à sa tombe. Une grande pancarte comme ça, yani, où c'est écrit yani, Abu Lu'lu'a, le pieux, le bien-élu d'Allah, le ceci, le cela, qu'Allah Ta'ala a aimé, qu'Allah Ta'ala a guidé pour avoir tué l'ennemi d'Allah, Omar ibn Khattab, comme ça. Non. Ensuite, un petit aperçu sur Omar ibn Khattab, le maudit, le ceci, le cela, sa fille, la maudite, ceci, cela. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de cette religion. Et ceux-là, ils disent, nous sommes musulmans, et pas seulement nous sommes musulmans, nous sommes tous musulmans, s'ils ont dit seulement nous sommes musulmans. Nous sommes les vrais musulmans. Nous sommes les gens de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas vous, pas nous, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala les maudisse. Il a dit, Aïcha, radiyallahu ta'ala, la véridique, la fille du véridique, la fille du véridique Abu Bakr, qu'Allah Ta'ala les agrée, est à la tête de celle à avoir bénéficié d'un tel avantage et la plus privilégiée. Par cette miséricorde répandue, c'est-à-dire le verset. Car la révélation n'est descendue sur le messager, alayhi sallam, dans le lit d'une femme, autre que Aïcha. Aucune femme. Sauf Aïcha, dans son lit, descendait la révélation qu'Allah Ta'ala l'a gré, comme le prophète Hassan lui-même l'a mentionné. Subhanallah al-Azim. Allah Ta'ala a fait d'elle de Aïcha, yani, lui a élevé son statut et a fait de sorte que le prophète Hassan meurt dans quoi? Dans sa chambre. Et meurt sa tête posée sur son genou, radiallahu ta'ala, le genou de Aïcha, radiallahu, ou bien sur yani, son mohim, subhanallah. Et yani, comment nier une chose pareille? Il a dit, certains savants disent que la raison, c'est quoi la raison qu'Allah Ta'ala lui a donné tout ce privilège. On est qu'elle fut la seule femme vierge avec laquelle le prophète se maria. Et aucun homme ne partagea son lit avec elle à part lui, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'elle ne s'est jamais mariée qu'avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi ce privilège lui fut accordé et attribué. Cheikh Hafidhahullah Ta'ala dit, si ses épouses font partie de sa famille, alors ses proches sont plus en droit d'être compris dans cette appellation. De la sunna et de l'unité. Sunna ou jama'a. Aime les membres de la famille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je dis, contrairement aux rawafid qu'ils disent que zama, nous on n'aime pas. Non, nous on n'aime pas la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux qui les aiment. Et non seulement ils les aiment, mais ils font partie d'eux. Eux, ils disent que nous, des rawafid, nous, Khomeini et la clique, on fait partie de la famille. C'est-à-dire, on est de la famille, c'est pas seulement on les aime. Il va dire, si tu vas voir mon grand-père, mon père, mon grand-père, mon grand-grand-père, mes aïeuls, tu vas trouver que, yani, ils vont monter jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Naam, que Allah Ta'ala les rétribue de ce qu'ils méritent, ce qu'ils méritent comme châtiment. Il a dit, donc les gens de la sunna et de la jama'a aiment les membres de la famille du messager, alayhi sallam, les prennent pour alliés et observent à leur égard la recommandation de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour de Ghadir Khum. C'est un endroit qui s'appelle comme ça, où il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, alayhi sallam, dans cet endroit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Udhakkirukumullaha fi ahli bayti. Je vous rappelle Allah Azzawajal à l'égard des gens de ma maison. Je vous rappelle Allah Ta'ala à l'égard des gens de ma maison. C'est-à-dire de leur donner droit. Ah, attention. Je vous rappelle Allah Subhanahu wa Ta'ala à l'égard des gens de ma maison. Les rawafid de nos jours ne cessent de citer cette phrase. À chaque fois, il te dit, allez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a dit le prophète Islam à Ghadir Khum? Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Naam, il a dit, je vous rappelle Allah Ta'ala, les gens de ma maison. Nous, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, vous, les premiers, vous n'avez pas tenu à cette promesse. Naam, Allah, le prophète, il a dit, je vous rappelle Allah à l'égard des gens de ma maison. Vous avez fait le contraire de ce qu'a dit le prophète, vous avez exagéré au point de les prendre pour yani, des dieux. Vous les avez adorés. Naam, vous avez oublié le prophète, et ce qu'il a dit. Et vous avez choisi seulement Ali ibn Abi Talib et sa descendance. Naam. Ainsi, Cheikh dit, Hafidhahullah Ta'ala, ainsi, les gens de la Sunna les aiment et les honorent, car cela fait partie de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son honneur. Ceci, écoutez bien, ceci, à condition qu'ils observent la Sunna et s'allient sur le droit chemin de la religion, comme ce fut le cas de leurs ancêtres, tels que Al-Abbas et ses fils, radiyallahu ta'ala anhum, et Ali et ses fils, radiyallahu ta'ala anhum. Quand celui qui a enfreint la sunna et ne tient pas droit sur la religion, il n'est pas permis de s'allier avec lui, même s'il fait partie de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Naam. Nous, on suit, on honore, on aime les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ceux qui sont pieux d'entre eux, qui ont suivi les lignes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas ceux qui ont dévié de la route, et pas ceux qui sont devenus des ennemis d'Allah. Vous avez compris? La position des gens de la sunna et de la jama'a vis-à-vis de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc la position du juste milieu et de l'impartialité. Ils prennent pour alliés ceux d'entre eux qui se conforment à la religion et à droiture, et dénonce ceux qui dérogent à la sunna et dévient de la religion, même s'ils font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'ils soient des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses proches ne leur sert à rien jusqu'à ce qu'ils se conforment à la religion d'Allah azzawajal. Si on prend par exemple, si on prend un petit exemple, Abu Lahab, sur lequel Allah Ta'ala dit, tabbat yada Abi Lahab wa tabma aghna anhu malo ma kasab. C'est cela d'Atalab, la fin du verset, la fin de la sourate. C'est qui? Ce n'est pas l'oncle paternel du prophète Sallam. Son père et le père du prophète Sallam ne sont pas-ils des frères? Son vrai nom, c'est quoi? C'est Ouzza. Ouzza ibn Abd al-Muttalib. Et on l'a appelé Abu Lahab. Abu, ça veut dire le père du feu. Car ce sera le premier à être yani, le plus proche du plus grand feu. C'est pour ça qu'on l'a appelé Abu Lahab. Sinon, son vrai nom, c'est quoi? C'est Abdulza. C'est Talib, Ibn Hashim. Et sa cunia, c'est Abu Utba. Et Abu Utayba aussi. Naam. Mais celui-là, il fait pas partie de la famille du professeur. Si, son oncle. Mais est-ce qu'on va l'aimer, l'honorer, etc. parce que c'est son oncle? Non. Pourquoi? Parce qu'il a dévié du chemin. C'est l'ennemi d'Allah Azzawajal. Donc ça ne lui sert à rien d'être l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il n'a pas il n'a pas suivi le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se leva lorsque fut dé sur lui le verset qui dit wa anzir ashirak al-aqrabin Shu'ara 214. Et avertis les gens qui te sont les plus proches. Avertis les gens qui te sont les plus proches. Dès que ce verset est descendu sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où Allah ta'ala lui a dit, avertis les gens qui te sont les plus proches, il a dit, il s'est levé, sallallahu alayhi wa sallam, et il a commencé à dire, Ya ma'shara Quraysh, ishtaru anfusakum. لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا Donc, dès que ce verset est averti, les gens qui sont les plus proches et descendus sur le prophète Hassan, il se leva et commença à appeler, ou disons à crier. Qu'est-ce qu'il a dit? Ô peuple de Quraysh, rachetez-vous. Je ne vous servirai à rien auprès d'Allah. Ô Abbas, c'est-à-dire son oncle, fils d'El Moutalib, je ne te servirai à rien auprès d'Allah. Ô Safiya, tante du messager, je ne te servirai à rien auprès d'Allah. Ô Fatima, fille de Mohammed, demande de mon argent ce que tu veux. Mais je ne te servirai à rien auprès d'Allah. Bukhari 2753. Donc, Naam, il les a appelés, il leur a dit, attention, attention que vous croyez que, puisque vous êtes mes proches, que yani, vous allez aller directement au paradis. Attention, je ne vous servirai à rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit? Rachetez-vous. C'est-à-dire, yani, obéis à Allah ta'ala. Rentre dans l'islam, applique, Naam, éloigne-toi des interdits. Si tu fais ça, d'accord. Mais si tu enfreins, tu enfreins à ce que Allah Ta'ala a dit, contredis sa sharia, ensuite tu dis, je suis le fils du prophète, ou bien je suis son oncle, ou bien je suis son frère, ou bien je suis son père, je t'avertis dès maintenant que ça ne va te servir à rien. Naam, attention, je vous avertis. Je vous ai averti. Et par les noms, subhanallah al-azim, par les noms. Ô Abbas, fils de Muttalib, Naam. Sénatouf, qu'est-ce qu'il a dit encore? Naam. Ô Safiya, tante du messager. Ô Fatima, fille de Mohammed. Prends ce que tu veux. Je ne te servis à rien. Je vais ne te servir à rien auprès d'Allah. Et regardez une chose, remarquez avec moi. Ô Safiya, Safiya, regardez Safiya. Ça me plaît de voir ce mot s'écrire comme ça. Safiya. Et non pas comme ça. Non pas comme ça. Non pas comme ça. Ça c'est quoi? C'est Safia. Safia. Mais ce n'est pas Safiya. Safiya. Naam. Comme ça. Regardez par exemple, ça c'est quoi? Ça c'est Maria. Naam. Et son épouse c'est quoi? Maria. Naam, Maria. Al-Muhim. Dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Écoutez ce qu'il a dit. Men bata'a bihi am, lam yusri' bihi nasabuh. Men bata'a bihi amalu, il manque le mot bihi, l'interjection bihi. Men bata'a bihi amalu, la bihi nasabuh. C'est quoi? Ça veut dire ça? Ça veut dire celui dont son acte va retarder, son appartenance familiale ne va pas l'avancer. Muslim 2699. Il a dit, alayhi sallam, celui dont son acte l'a retardé, son appartenance familiale ne l'avancera pas. C'est-à-dire, si tu ne fais pas ce que Allah Ta'ala t'a ordonné de faire, et tu ne t'éloignes pas de ce que Allah Ta'ala t'a ordonné de t'éloigner, donc ton acte, donc ce que tu fais, t'as retardé, hein, tu n'as pas avancé. Tu retardes et tu recules. Tu n'obéis pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors attention, ton appartenance familiale ne va pas t'avancer. Si tu crois que, parce que je suis ton père ou ton oncle ou ton frère ou ton cousin, non, je suis moi le père, donc tu crois que ça va t'avancer, ça ne va pas t'avancer. Pourquoi? L'essentiel, c'est les actes. Si tes actes sont retardés, ton appartenance ne va pas t'avancer. Ça, c'est quoi? C'est l'appartenance. Il y a une famille, peut-être au prophète, ça ne va pas t'avancer. Qu'en est-il, Yanni, si tu crois que ton père est ministre, ou là ton père c'est un général, ou bien ton père c'est un je ne sais qui, président de la République, tu crois que ça va t'avancer, Yom al-Qiyamah. Le cheikh dit, Hafidhahullah ta'ala, les gens de la Sunna et de l'Imam dénoncent l'attitude des chiites, Rawafid. Rawafid. Vous savez pourquoi ils appellent les Rawafid? Du verbe Rafada. Ils n'ont pas accepté. Non. Quand tu lui dis, je te donne quelque chose, il n'accepte pas. Rafada, Yerfodo. Non. Ils n'ont pas accepté que Zayd ibn Hassan ibn Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'ils lui ont dit, qu'est-ce que tu penses de Abu Bakr et Omar? Il a dit, radiyallahu ta'ala anhumah. Que Allah ta'ala les agrée. Ils n'ont pas accepté cette chose. Ils sont partis. Depuis ce jour, on les a appelés les Rawafid. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas accepté, les Rawafid. Du verbe rafada, il n'a pas accepté. Si on vous dit qu'est-ce qu'ils n'ont pas accepté? Ils n'ont pas accepté, yani que Zayd dise quoi? Disent sur Abu Bakr Omar, radiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah al-azim. Le fils de qui? Le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah al-azim. Les gens de la Sunna et de l'unicité dénoncent l'attitude des Rawafid qui exagèrent à l'égard de certains membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en leur attribuant l'infaillibilité. Regardez par exemple, je vous donne un exemple. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, qui est venu après lui? Abu Bakr Siddiq. Et Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chez Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu. Chez Abu Bakr. Non, chez Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu. Non, chez lui, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, donne-nous l'héritage. L'héritage de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des choses avant de mourir. Bon. Et bien sûr, à part Wasm Hadik, mais il avait une terre quelque part. Terre quelque part. Un morceau de terre. Elle a dit, donne-nous l'héritage. Abu Bakr, qu'est-ce qu'il lui a dit? Radiallahu ta'ala. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous, ma'ashar al-anbiya, nous, les messagers, les prophètes, jamais on ne fait hériter quelque chose après nous. Mais on fait hériter la science. C'est pour ça que les sciences s'appellent qui? Les héritiers. Car les prophètes ne laissent rien, yani, qu'on puisse hériter. Sauf quoi? Sauf la science. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui a hérité la science, vraiment, il a hérité quelque chose. Elle ne connaissait pas ce hadith. Alors Abu Bakr lui a montré qu'il y a un hadith. Le prophète a dit qu'il ne laissait rien en héritage. Seul quoi? Seule la science. Et bien sûr, elle s'est un peu énervée, il y a eu un petit litige entre eux. Elle-même, les chiites et les rawafis profitent de cela. Ils disent, Abu Bakr Siddiq, l'ennemi d'Allah qui a usurpé, non, qui a usurpé et pris les droits de sa fille et ne lui a pas donné l'héritage de son père. Adoullah Abu Bakr, c'est un ennemi d'Allah. Non, il a volé la fille du prophète Islam. Non, nous, les gens de la maison, nous, on aime la famille du prophète, on aime Fatima Miskina, la pauvre. On lui a volé son héritage. Alors qu'Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué seulement le hadith. Il a dit, aucun membre de la famille du prophète, fût-il son fils ou sa fille, n'a droit à l'héritage. Car le prophète lui-même n'a dit à pas. Donc nous, on applique. C'est parce qu'on aime le prophète qu'on donne rien, on déteste. On veut voler sa fille à sa fille ou son fils. Non, parce qu'on l'aime. Il a dit, il n'y a pas d'héritage après moi. Et eux, les djouhèles, les rawafid, les djouhèles, qui ne connaissent rien à la religion. Ils ne connaissent pas qu'il y a ce hadith. Naam, les djouhèles, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il lui a volé, etc. etc. Il n'a pas voulu lui donner son droit. Les gens de la sunna et de la jama'a dénoncent l'attitude des rawafid qui est à l'égard de certains en leur attribuant quoi? L'infaillibilité. L'infaillibilité. Ils te disent quoi? Ils te disent Ali ibn Abi Talib et la fille, et maintenant nos imams, Khomeini, la clique, ceux qui viennent après lui, avant lui, sont tous quoi? Sont des infaillibles. Vous savez que ça veut dire ça, infaillible? Qui ne fait pas de faute, qui n'oublie pas. Allahu Akbar. Infaillible. Infaillible, comme ça. Oui, infaillible. Une fois, j'ai fait un petit débat comme ça avec les rawafid. Quelqu'un m'a dit cela, c'est des rawafid, ils veulent parler, ils veulent discuter. Toi, il ramène et on discute un peu. Dès qu'on a commencé, salam alaikum salam. Parce que quelqu'un m'a dit, ils disent que, ils disent qu'ils sont infaillibles, yani leurs savants. Ah, je lui dis, d'accord, ramène-les. Salam alaikum salam, tu dis que, yani, ils sont infaillibles les savants. Il m'a dit, oui, ils sont infaillibles les gens de la maison. Ça, ils font partie des gens de la maison, Khomeini, la clique. Ah, d'accord. Je lui ai dit, est-ce qu'ils sont mieux que les messagers ou la moins? Non, il m'a dit les messagers sont mieux. Je lui ai dit, un messager peut oublier ou il ne peut pas? Il m'a dit non, il ne peut pas oublier. Je lui ai dit d'accord. Alors, il dit dans Sourate Al-Kahf, en parlant de Moussa alayhi salam, il a dit, Wa ma ansanihu illa shaytan. Wa ma ansanihu illa shaytan. Dans un autre verset, Wa ma ansanihu illa shaytan. Est-ce que tu trouves si c'est ce verset ou là, le verset où il y a eu le dialogue entre lui et le Khadir? Il lui a dit, La tu'akhidni bimanasit. Comme ça, il lui a dit. Il a dit à Al-Khadir. Il lui a dit, parce qu'ils ont fait un pacte qu'ils ne devaient pas poser de questions. Ensuite, quand il a trouvé la barque, il lui a dit, Pourquoi tu as trouvé la barque? Il lui a dit, N'avions-nous pas fait un pacte que tu ne devais pas poser de questions? Il lui a dit, La tu'akhidni bimanasit. Ne m'en veux pas pour avoir oublié. Je lui ai cité ce verset. La tu'akhidni. Je lui ai dit, Moussa, ici, pourquoi il a dit. Ne m'en veux pas pour avoir oublié. Subhanallah al-Adim. Quand je lui ai cité juste le verset, il m'a même pas dit salamullah. Il est parti avec son groupe. Ils sont partis. Il n'y a aucune réponse. Non, il ne peut pas avoir de réponse. Il a fait comme ça un geste à ses amis. Ils sont partis. Depuis ce jour, depuis ça plus, il a compris. Non. Depuis ce jour, on ne les a plus vus à la mosquée. Non. Ils ne veulent pas fréquenter les mosquées parce qu'ils savent que c'est difficile pour eux. Ils font des assises en cachette dans les maisons. Que Allah Ta'ala les rétribue de ce qu'ils méritent. Ce qu'ils méritent comme châtiment. Naam. Il a dit, en leur attribuant l'infaillibilité. Il a dit, de même qu'on dénonce l'attitude des nawasib. Nawasib, c'est qui? Ceux qui déclarent hostile aux gens pieux de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dénigrent. Nous, nous sommes au milieu, ni au point où on dit qu'ils sont infaillibles, ni au point qu'on les critique, on les dénigre. Il a dit, il rejette aussi la voix des innovateurs et des fabulateurs qui sollicitent la médiation des gens de la maison du prophète auprès d'Allah et les prennent pour des divinités en dehors d'Allah. Non. Nous, ces temps-ci, c'est ce dernier mois, ces 2, 3 mois, on a, oudoubillah, je ne sais pas d'où il a paru, quelqu'un en Algérie qui maintenant fait la da'wa, il y a 100% pour la wafid. 100%. Ça fait 10 ou 15 jours, il est passé à la télé. Il a fait un débat avec quelqu'un de Al-Sunnah. Non, Al-Sunnah, c'est-à-dire Sunni. Je ne dis pas Al-Sunnah, Sunni. Sinon, c'est un Hizbi. Al-Muhim, subhanallah, dans le débat, il a dit que moi, alhamdoulillah, il a dit j'ai été en Irak, ensuite j'ai été en Iran, j'ai été à la tombe de l'Hussein et j'avais une maladie et j'ai guéri, bi'idhnillah ta'ala. Je me suis, c'est-à-dire j'ai essuyé la tombe de l'Hussein, j'ai fait des doigts, je suis revenu en Algérie guéri. Naam. Subhanallah, dommage que l'autre, yani celui qui faisait avec le débat avec lui, n'a pas son, qu'est-ce qu'il fallait lui dire ici. Car le Rafidi, quand il a dit je suis parti là-bas et Allah Ta'ala a exaucé mes doigts, il a dit car Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Allah Ta'ala a dit, on parle de la doua de Ibrahim. Ibrahim, quand ensuite il a cité un verset, où Allah Ta'ala en parlant de Ibrahim, a dit, je me rappelle le verset, j'ai oublié maintenant le verset où il a dit à la fin que il était parti là. Une seconde, une seconde. Je disais, une seconde, je vais vous chercher maintenant le verset, une seconde. Inda baytika al-muhammar rabbana li yuqimu salat. Ce verset, na'am, rabbana niskintu min dhurriyyati biwadin ghayri. Ce verset, il a ce verset, il a dit, c'est Ibrahim alayhi salam qui a fait les doigts que Allah Ta'ala, comme quoi, yani, il allait habiter dans un endroit désertique, etc. Il a dit, tout ça, c'est la baraka d'Ibrahim alayhi salam. Et il a dit, le Hussein, c'est l'un des fils d'Ibrahim, les petits-fils, la descendance. Donc, subhanallah, je me suis dit, je suis à sa place, lui dis, Asma, tu parles d'Ibrahim alayhi salam. Pourquoi n'as-tu pas cité le verset Ibrahim alayhi salam? Où lui-même, Ibrahim salam alayhi salam, a dit dans le Coran, le verset qui dit, attendez, je cherche un peu dans ma tête. واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظروا لها عاكفين يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم ويضرون أن بو بلو بايلادي إنهم عدو لي سو سون دي زانمي بور موا إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين إي فوالا لو تيموا وإذا مرضت فهو يشفين إي سي جو توم مالاد سي لي نعم تو بار دو إبراهيم Tu vas vers un verset qui n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire, يعني الله تعالى t'a guéri en allant essuyer la tombe de Hussein, et tu ne cites pas le verset où Ibrahim a dit Wa ida maristo, et si je tombe malade, c'est lui qui me guérit. C'est clair, marit, si je tombe malade, c'est lui qui me guérit, subhanallah l'adim. Tu oublies ça. El-Muhim, les égarés, c'est comme ça. Cheikh dit, rahimahou al-Hafidhahou ta'ala, Cheikh dit, en effet, les gens de la Sunna adoptent sur ce point et sur d'autres voies, de juste milieu, adopte sur ce point et sur d'autres une voie de juste milieu et de droiture, sans exagération ni négligence, et sans dépit ni outrance envers les membres de la famille du prophète. Il faut savoir que ceux qui étaient intègres parmi eux désavouaient l'exagération à leur égard et dénonçaient ceux qui adoptaient une telle attitude. Ainsi, écoutez bien, on va terminer avec ça. Écoutez bien. Ainsi, le prince des croyants, Amirul Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, brûla ceux qui exagérèrent à son sujet. Naam. Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, approuva leur exécution, mais considéra que cela aurait dû se faire par l'épée au lieu du feu. Al-Muhim, Ali ibn Abi Talib, qu'ils adorent eux maintenant, qu'ils prennent comme Dieu, et qu'ils disent si, certains d'entre eux ont dit, je l'ai écouté dans la cassette, que c'est lui, Yom al-Qiyama, qui va dire, toi va au paradis, toi va en enfer. Toi va au paradis, toi va en enfer. Comme ça, ils pensent de Ali, radiallahu ta'ala anhu, les koufars. Ali ibn Abi Talib, en son temps, qu'est-ce qui s'est passé? Des gens sont venus vers lui et lui ont dit, tu es un ilah, tu es un dieu. Est-ce que Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, est-ce qu'il accepte ça? Il leur a dit, taqullah, taqullah, subhanahu wa ta'ala, taqullah. Ils n'ont pas voulu. Quand ils ont insisté, il a insisté avec eux, ils n'ont pas voulu se désister de cette fausse croyance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on creuse des tranchées. Naam. Et il les a fait venir et il leur a dit, maintenant, ou bien vous rétractez de ce que vous avez dit comme kufr, naam, je ne suis que yani, un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien je vais vous jeter dans le feu. De se rétracter. Et ils ont accepté d'être jetés, subhanallah. Et quand ils ont commencé à brûler, il leur a dit, et maintenant, vous revenez pas de ce que vous dites? Ils ont dit, maintenant, ça nous a rajouté. Et le feu, ça nous a rajouté, naam quoi, la certitude que tu es un dieu. Car ne brûle avec le feu que le dieu du feu. Subhanallah al-Azim. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne brûle qu'avec le feu que le dieu du feu. La yu'allib bin nar illa rabbun nar. Subhanallah al-Azim. Et ils sont morts comme ça, comme des kuffars, brûlés. Dans cette vie, avant d'être brûlés dans l'au-delà avec le grand feu. Comme a dit Allah Ta'ala, ça nous allait bon maratin, Allah Ta'ala dit dans le Coran, nous les châtirons deux fois. Naam. Ici, ils ont été brûlés, meurent. Quelqu'un qui meurt brûlé, c'est pas facile là. Des fois, ça à la télé ou là, des gens, des hindous là, ils viennent comme ça, s'assoient et jettent. On jette sur eux de l'essence et ils s'allument et ils restent comme ça, bras croisés et pieds croisés aussi, comme dans le cas. Naam, jusqu'à ce que. Il se termine. Et la plupart du temps, même beaucoup d'eux, quand ils commencent vraiment à sentir que, khlas, yani, ils vont quitter ce monde, yani, ils vont mourir, ils commencent à courir, à demander de l'eau, etc. Beaucoup ont fait ça. Mais certains, yani, ils ont vraiment une aqida, khlas, cœur scellé, hein, ils restent comme ça jusqu'à ce qu'ils meurent. Qu'Allah Ta'ala nous préserve d'eux. Et Ali, radiallahu ta'ala, nous déchire Fawzan, rahimah, hafidhahullah ta'ala, voulut également exécuter le chef des fanatiques, Abdullah ibn Saba, le Yahoudi, le grand Yahoudi, Abdullah ibn Saba. Lui-là, qui a quoi? Qui a propagé le rafidisme. Il s'est déclaré Zama, c'est un kafir. Zama, il est rentré en islam, Zama, et il a dit, moi je suis de la famille, j'aime la famille du prophète, et je suis du prophète, Abdullah ibn Saba, naam. C'est un Yahoudi. C'est un juif d'origine. Et il a quoi? Il a propagé le rafidisme. Et maintenant, ce sont des millions de rafidites dans le monde. Des millions d'âmes, de chiites rafidites, qu'Allah Ta'ala nous préserve d'eux. La base de leur religion est venue de quoi? C'est un Yahoudi qui s'est zama, rentré en islam, et a commencé à dire, non, moi je suis pas avec ces musulmans-là. Moi, je suis avec la famille du prophète. Et venez, on va faire un groupe spécialement pour défendre la famille du prophète. Alors, dans l'intention, qu'est-ce qu'il voulait? Juste diviser les musulmans. Les diviser. Faire de sorte qu'ils soient divisés. Ahl Sunna et les autres Zama, la famille du prophète. Naam. Alors que Allah Ta'ala, maintenant, il est mort. Il est dans la tombe, maintenant, il est à Jahannam. Que Allah Ta'ala, il le descend dans le plus profond. Quand Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit, un peu plus haut, il a dit, ainsi, le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, brûla ceux qui exagérèrent à son sujet, il a dit, Abdullah ibn Abbas, le sahabi, le grand Abdullah ibn Abbas, approuva leur exécution, mais n'approuva pas le fait qu'ils aient été tués par le feu brûlé. Il a dit, j'aurais préféré qu'il soit tué par quoi? Par l'épée. Dans ce hadith-là, Cheikh n'a pas cité le hadith, je vais vous le citer. An Ikrima, علي عنه حرق قوما فباس فقال لو كنت لم أحرقهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولا قتلتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فاقتلوه. Regardez le grand savant, le fils du pro, le cousin du prophète sallam. Ali aussi c'est le cousin bien sûr, mais Abdullah ibn Abbas avait cet avantage que le prophète sallam l'a enlacé et a demandé à Allah Ta'ala de faire de lui un savant. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a entendu que Ali ibn Abi Talib a quoi? A brûlé les gens qui ont dit de lui que tu es un dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a désapprouvé. Désapprouvé pas le fait qu'il les ait tués, mais qu'il les ait brûlés. Il a dit, d'après Ikrima, qu'a brûlé certains gens. Et que ça a été porté à Ibn Abbas, qui a dit, si c'était moi, je ne les aurais pas. Car le prophète a dit, ne châtiez pas par le châtiment d'Allah. Ne torturez pas par la torture d'Allah, c'est-à-dire le feu. Mais je les aurais exécutés. Comme salam, quiconque change de religion, exécutez-le. Vous avez vu la science, deux hadiths. Si c'était moi, je les brûle pas. Pourquoi? Ça te plaît pas le fait d'être brûlé? Non, parce qu'il y a un hadith. Non, je ne les brûle pas à cause du hadith. Qu'a dit le hadith? Qu'a dit le hadith? Ne châtiez pas pour le châtiment. C'est-à-dire, quand vous châtiez quelqu'un, pas en le brûlant. Voilà ce que veut dire le hadith. Et alors, qu'est-ce que je les aurais seulement exécutés avec l'épée. Quel est ton dit? Non, j'ai un délit. Quiconque change de religion, exécutez-le. Il n'a pas dit brûlez-le. Allahu Akbar, la science, naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Fa'in asabtu fa min Allah Azza wa Jalla, wa in akhta'tu fa min nafsi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shahadu la ilaha illa ant astaghfiruka. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand vous êtes prêts, Inch'Allah Ta'ala, pour les questions, dites-le moi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sans perdre de temps, Inch'Allah Ta'ala, tafadlalou, Inch'Allah Ta'ala, pour la première question.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wahdah. Wa salat wa salam ala manna nabiyya ba'dah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Donc la première question, question d'un frère qui vous dit, Cheikh, avant la question, Cheikh, hafidhakum Allah, avant tout, je vous demande de me pardonner, car par le passé j'étais tekfiri, à l'époque de Salah 19 entre autres. Et j'ai dû vous critiquer par manque de science et de compréhension religieuse. J'étais un passionné d'anachid et de djihad, sans cerveau, sans cervelle, pardon, j'étais un égaré. Allah, pardonnez-moi, cher, apaisez mon cœur. Donc voilà, cher, avant, si vous souhaitez réagir à ça, là, fait comme après je vous poserai la question, Inch'Allah, cher.
Alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. À ce frère et à mon fils, s'il n'est pas de mon âge, que, alhamdoulilah, tu es tout pardonné. Il a le plus grand, disons, ce qu'on puisse sentir, yani, comme le plus grand plaisir, disons, dans le cœur, la grande douceur. C'est quoi? C'est de savoir que quelqu'un, yani, masha'Allah, yani, est revenu vers le haqq. Et, masha'Allah, ta'ala, Allah ta'ala lui a ouvert, yani, la poitrine. Et, yani, lui a donné la clairvoyance dans le cœur. Et a reconnu que, yani, il était dans, yani, qu'il était, et qu'il est devenu, revenu maintenant vers le haqq. Naam. Si, quant à ce que tu as dit, naam, tout cela, inshallah ta'ala, peut-être, inshallah ta'ala, que ça deviendra des hasanat yom al-qiyama pour toi. Parce que maintenant, yani, alhamdoulilah, que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, je demande à Allah ta'ala qu'il te rende tout ça des hasanat yom al-qiyama. Parce que tu as reconnu le haqq, nam, tu as retrouvé le haqq, vers le haqq, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, puisse Allah subhanahu wa ta'ala, yani, nous aider à, yani, rester sur la voie, le haqq, à s'entraider, à s'entraîner jusqu'à mourir sur cette voie, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala.
Amin, barakallahu fikoum, cher. Et donc voici la question du frère. Il dit, vous avez parlé du chiite qui a tué Abu Bakr, radiallahu anhu. Et je voudrais savoir si les chiites de l'époque d'Abu Bakr sont pires que notre époque. Et si on peut dire que les chiites sont nos frères en islam ou en humanité, car notre imam prétend que les chiites sont nos frères en humanité. Hayakum Allah, cher.
En fait, avant de répondre, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi ce conseil? C'est que la personne qui était dans un minhaj, par exemple, faux, par exemple, qui était chiite, qui était takfiri, qui était tabliri, qui était ahbash, kiki, et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a englobé dans sa miséricorde, il lui a ouvert les yeux, il l'a aidé, je lui dis, que cette personne n'oublie pas ses frères, ses adeptes qui étaient comme lui. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, toi t'as aidé, n'oublie pas les autres qui sont restés toujours stagnés dans le takfir, par exemple, de leur faire de la da'wah si c'est possible. Ou alors de leur envoyer comme ça des choses de savon, etc. Comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a aidé, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala fera de toi quelqu'un qui, comme a dit le prophète, une clé de bien, une clé pour le bien, et que Allah Ta'ala, par toi, va guider aussi d'autres gens, Inch'Allah Ta'ala, premièrement. Deuxièmement, le frère a dû confondre. Je ne parlais pas, et je n'ai pas parlé, de celui qui a tué Abu Bakr. Il n'a pas été tué. Il est mort avec de la fièvre, comme a dit Ibn Hajj al-Asqalani dans Fath al-Bari. Je crois qu'il voulait parler de Omar Ibn Khattab. Moi, je parlais de Omar. Reprenez-moi si je me trompe. Est-ce que j'ai dit que Abu Lu'a, Fayrouz, a tué Abu Bakr? Je pense avoir dit qu'il a tué Omar. Reprenez-moi. Est-ce que j'ai dit Abu Bakr? Voilà, Omar. Hein. Moi, je parlais de Omar, radiallahu ta'ala anhu. Je ne parlais pas de Abu. Abu Bakr n'a pas été assassiné. Il est mort de par la fièvre, certains ont dit. Donc, si c'est possible de relire, qu'est-ce qu'il a dit donc de Omar, qu'est-ce qu'il a dit Barklaoufik?
Hamcher, il dit, je voudrais savoir si les chiites de l'époque sont pires que ceux de notre époque actuelle. Est-ce que l'on peut dire que les chiites sont nos frères en islam ou en humanité? Car l'imam de chez lui donc prétend que les chiites sont nos frères en humanité. Barakallahu fikoum, cher.
Ensuite, il a dit qu'un imam prétend que les chiites sont nos frères en humanité. Je crois que tout à l'heure, tu as dit qu'il prétend que c'est l'islam. Car s'ils sont nos frères en humanité, une personne qui n'est pas nos frères en humanité. On est tous de Adam et de Ève. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par ici. S'il dit ça, c'est peut-être quelqu'un de bien. Ça veut dire qu'il reconnaît ou là, il atteste qu'ils ne sont pas nos frères dans le bien. Comme ça. Mashallah, les salafis, les chiites, les rawafid, ce sont nos ennemis dans le din, pas nos frères. Vous avez compris? Si tu dis qu'un chiite, c'est mon frère dans le din, c'est que vraiment tu es loin, tu n'as rien compris dans le din. Comment peut-il être ton frère? Il insulte ta mère. Il dit Aïcha, Aïcha, la khabitha, Aïcha la fornicatrice, Aïcha la perverse. Certains, ils ont cité dans son livre Minhaj Sunna, certains des rawafid sont allés jusqu'à dire, au fait, sallallahu alayhi wa sallam lui-même rentrera en un certain temps pour purifier, ils ont dit ses parties intimes, pour avoir de Aïcha et de Hafsa, ou là surtout de Aïcha, le temps elle a fait, Allah Ta'ala nous préserve. Ça, vous le trouvez écrit pour ceux qui ne me croient pas. Dans le Ibn Taymiyyah, Ahmed. Quelqu'un qui dit comme ça, celui-là, c'est mon frère. Quelqu'un qui dit qu'Allah m'aboubak, qu'Allah maudisse Omar, les sarcophages. Aïcha a fait ceci, Omar a fait cela. Ce sont mes frères, ce sont mes ennemis. Ce sont mes ennemis dans le dîn. Naam. Tfadl.
Naam, cher. Surtout que beaucoup se laissent tromper par les soi-disant Hezb du Liban et autres, comme quoi ils combattent les Juifs et qui sont plus actifs que les salafiques, les musulmans, et de même le président iranien, etc., cher.
Naam, si tu dis que les frères dans le din ou là tes frères, ça veut dire que tu n'as à la, au moins tu n'as pas, tu sais ce que tu n'as pas. Tu n'as pas l'ouala ou le bara, ce qu'on appelle l'ouala ou le bara. Tu n'aimes pas pour Allah, tu détestes pas pour Allah. Et le prophète m'a dit, man, il a dit parmi les plus solides, les plus solides anses de la foi. C'est d'aimer Allah et détester Allah. Naam. Quelqu'un qui te dit de ta mère, la vraie, ta mère. Je parle pas de ta mère. Et ta mère, c'est une pieuse, elle prie tout le temps, mashallah. On va dire d'elle, c'est une fornicatrice. Tu acceptes? Tu vas toujours l'aimer ou le rester. Imagine qu'ils disent maintenant, mère des croyants, la mère des croyants, Aïcha, la pure, la vérité. Quand le prophète alayhi s'est marié avec elle, elle jouait toujours avec ce qu'on appelle les jouets. Elle avait comme ça une petite poupée avec laquelle elle jouait, qu'elle avait construite elle-même. C'est dire quoi? C'est dire l'osmo, le bara à son innocence. Quand on a demandé à Barira, Barira, une femme aussi. Celle de Aïcha, l'esclave de Aïcha, ou là, la servante. Non, on lui a dit, qu'est-ce que tu penses de Aïcha? Après que les gens ont propagé, elle a fait le péché. On a demandé à certains gens, entre autres, on a demandé à Barira, on lui a dit, qu'est-ce que tu penses? Elle a dit, je ne connais d'elle que le bien. Une qui reste devant lui, en train de le préparer, c'est-à-dire en train de le faire cuire, et s'endort. Elle a dit comme ça. Et s'endort, et ensuite les poules et les moutons et ça viennent manger le pain. Quand elle se réveille, elle s'endort comme ça, 5-10 minutes, elle se réveille, elle trouve qu'on vient de manger. Subhanallah. Ils disent d'elle, elle a fait la fornication. Et maintenant, celui qui dit ça, tu dis que c'est mon frère. C'est mon frère. Attention, attention, quand on vous dise quoi, alors je sors et je reviens. Salam alaikum. Est-ce que maintenant c'est mieux peut-être? Dites-moi s'il y a toujours des coupures ou pas, sinon on change de salon. Je disais attention seulement qu'on vous trompe et qu'on vous dise que les chiites maintenant combattent les Américains et les Juifs, etc. Attention que vous croyez à ça. J'espère, Inch'Allah ta'ala, que vous avez assez de maturité pour savoir que tout cela n'est pas vrai. Jamais, jamais de la vie, les Rafidis, les chiites, les Iraniens ou qui que ce soit, n'ont combattu les Américains. Ou bien les Juifs. Qui dit Amérique dit Juifs. Les Américains et les Juifs, ce sont leurs amis intimes. Il y a beaucoup de photos sur Internet où vous trouvez le président Hadak qui était il y a quelque temps. J'ai oublié comment il s'appelle, Hadak. Comment il s'appelle le président qui est passé juste quelque temps, fait 2 années ou là une année, on l'a enlevé. Mohamed, assis avec les juifs, en train de les embrasser, de les enlacer, de leur donner de l'argent de. Dites-moi, rappelez-vous deux choses. La première, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, voilà, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, il a dit, depuis que ce monde existe, depuis que les Rafidis existent, jamais, écoutez ce qu'il a dit, voilà, Ahmadinejad, ça, Ibn Taymiyyah dit jamais depuis que l'islam existe, le monde existe, les rafidis existent, jamais il n'y a eu une guerre de musulmans contre les kuffars sans que les rafidis ne soient du côté des kuffars. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamais il a dit, ne s'est produit une guerre dans le monde contre les musulmans sans que les rafidis soient avec qui? Les rawafid, soit avec les kuffars contre les musulmans. Allahu Akbar. Quand les tatars sont venus, les rafidis avec qui? Ils étaient avec les tatars contre les musulmans. Quand les Américains sont rentrés en Irak, qui les a fait rentrer? Les rawafid. Il y a une photo sur Internet. Les premiers chars des États-Unis, quand ils sont rentrés en Irak, il y a qui dessus? Sistani. Sistani. L'un des grands savants, pour eux, ils appellent ça un savant. Chez nous, l'un des plus grands juhels. On lui a donné combien? Assis sur le char. Assis sur le char. La photo est sur Internet. Assis sur le char avec les soldats américains qui font leur rentrée en Irak. Venus des États-Unis. Bon, venus bien sûr de l'aéroport ou je ne sais pas où. Ils ont déporté les chars. Et lui, il est allé monter sur le char et rentrer avec eux. À cause de ce qu'a dit Ibn Taymiyyah. Non, pour que vous sachiez ce qu'il a dit, c'est vrai. Jamais les kuffars n'ont fait une guerre contre les musulmans sans que les rafidis ne soient avec eux contre les musulmans. Allahu Akbar. Ils n'ont pas. Vous savez combien on a donné à Sistani? Combien qu'on lui a donné pour faire la fatwa? Pour faire une fatwa con quoi il est interdit de tuer les Américains. C'est-à-dire il faut être avec eux. L'interdiction dans la religion de tuer les Américains. Vous savez combien qu'on lui a donné? 200 ou 250, maintenant j'ai oublié, mais disons seulement c'est 200, c'est pas 250. 200 millions de dollars. Vous savez que ça veut dire 200 millions de dollars. Tes enfants et les enfants de tes enfants, et les enfants de tes enfants et les enfants de tes enfants. Vivre dans la plus grande richesse. 200 millions de dollars. Allahu Akbar. Pour faire une fatwa, comme quoi c'est interdit de tuer les Américains, c'est-à-dire comme quoi il faut être allié avec eux. Allahu Akbar. La deuxième des choses avec laquelle on peut vous tromper, on va vous dire ils aiment le djihad, ils sont contre les Juifs et les Américains. On a donné le premier délit, ce sont eux qui ont ramené les Américains en Irak. Deuxième délit, ce qu'a dit Ibn Taymiyyah, que jamais il n'y a eu une guerre de kofar contre les musulmans sans que les rawafid ne soient avec les kofar contre les musulmans. Troisième délit, qu'il faut apprendre et retenir toujours. Dites à celui qui dit comme ça, miskin, cet idiot, cet imbécile qui dit que Nasrallah, qui est au Liban, qu'ils appellent eux Nasrallah, et nous on dit Nasrallah, l'être c'est une statue, lui il soutient une statue par là, même comme quoi, yani, il est contre les Américains. Alors pose-lui une question très simple, celui qui dit comme ça. Dites-lui, écoute, pardon, hein, mais moi je ne connais rien ni dans la religion ni dans la politique. Moi je ne connais rien, je suis un ignorant, mais j'ai juste une petite question, hein, une petite question, ça fait rien? Je te dis, ça fait rien, pose la question. Dis-lui, les Américains ont une liste de 50 ou bien 100 ou bien 150 personnes qu'ils appellent les plus grands terroristes recherchés dans le monde par les Américains, avec leurs photos. Et quiconque les ramène, il a je ne sais pas combien de millions de dollars. Cette liste, elle existe ou pas? Il va te dire si elle existe. Dis-lui, qui a la tête de cette liste? Il va dire je ne sais pas ou bien je sais. C'est Oussama Ben Laden, le chef des terroristes pour les Américains. Et dans cette liste, il y a 100 ou 150 recherchés. Est-ce qu'il y a Hassan Nasrallah? Hassan Nasrallah, qui est l'ennemi, d'après toi, l'ennemi juré des États-Unis, qui fait le djihad aux États-Unis, qui tue les Américains et qui va détruire l'Amérique. Il est sur la liste. Il n'est pas. Allahu Akbar. Hassan Nasrallah, le plus grand ennemi des États-Unis, d'après toi, qui fait le djihad aux États-Unis, qui a une armée avec la guerre, avec les armes, les fusils, les mitraillettes, les clans, il n'est pas recherché, il n'est pas dans la liste. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire c'est un ami des États-Unis, pas un ennemi. qu'il est payé par les États-Unis, qu'il doit de temps en temps y parler et venir à la télé dire, les Américains, les ennemis d'Allah, on va les tuer, on va les exterminer. Quand il dit ça, il est payé. On lui téléphone, écoute, Hassan, oh cher Hassan, notre frère Hassan, notre ami Hassan, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé à la télé. Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu t'endors. Les gens vont croire que tu es notre ennemi. Il faut que tu es notre ami. Hey, va parler un peu, hein? Parle de mal à la télé, hein? N'oublie pas, hein? Insulte, hein? Ah oui, dis nous sommes des ennemis, dis les Américains, c'est les ennemis d'Allah, hein? N'oublie pas. D'accord, allez, à demain, on va t'entendre. Hein? Salut, hein? À tout à l'heure. Hey, salam. Subhanallah al-Adhim. Subhanallah al-Adhim. N'est pas sur la liste. N'est pas sur la liste et il est un ennemi. À ce mot, Oussama Ben Laden, d'accord. C'est un ennemi des Américains. Et encore, et ceux-là, et certains disent que c'est pas vrai. Mais au moins il était sur la liste. Au moins il était sur la liste. Le premier sur la liste. Zarqawi, le deuxième sur la liste. Pourquoi il n'y a pas Hassan? Hassan Nasrallah, pourquoi il n'est pas sur la liste? La réponse simple et claire. Parce que c'est pas leur ennemi. C'est un allié. C'est quelqu'un qui travaille pour eux, qui est payé. Il a des milliards, il a des milliards de dollars dans sa caisse. Non. Tfadl.
Malheureusement, chers, beaucoup sont aveuglés et beaucoup même critiquent les savants sunnis, comme quoi ils sont silencieux, etc. par rapport à cela. Et cela, c'est un manque de fer, Allah Moustaan. Question suivante, chers. Question d'une sœur qui dit: Chers, pouvez-vous m'éclaircir sur l'explication du verset suivant? Donc, le verset, chers, c'est ce que vous avez cité, Sourate Al-Ahzab. Les coalisés, numéro 33, restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam, de la jahiliya. Donc, ma question est, devons-nous prendre tous les versets adressés aux femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou comme si cela nous a été adressé directement, sachant qu'elles ne sont comparables à aucune des croyantes? Non, cher. Donc, il manque quelques mots. Mais donc, la question, est-ce que, cher, quand les versets s'adressent aux femmes des prophètes, à Sainte Salam, est-ce que c'est justement spécifique à elles, ou est-ce qu'en fait, Allah Azzawajal leur parle à elles et en fait s'adresse à l'ensemble des femmes? C'est ça. Elle dit, sachant qu'elles ne sont comparables à aucune des croyantes, et sachant qu'Allah Azzawajal, dans certains versets, s'adresse à nous de façon précise. Par exemple, Allah Azzawajal dit: Au prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Donc, cher, si vous pouvez par exemple dire, donc de manière spécifique, pourquoi dans certains versets, donc il s'adresse aux femmes du prophète, à Sainte Salam, mais dans certains versets, c'est plus général. Est-ce que cela signifie que dans le premier cas, ça ne s'adresse qu'aux femmes du prophète, à Sainte Salam? Barakallahu fikoum, cher.
Avant cela, je voudrais faire juste une petite remarque. Il se peut qu'il y ait des nouveaux avec nous, ou bien des gens qui aient des choubouhettes, ou bien. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de Oussama Ben Laden, j'avais dit qu'il était sur la liste Zarqawi, etc. Ça ne veut nullement dire que ils sont sur le vrai chemin. C'était juste pour, je les ai cités, pour les comparer avec Hassan Nasrallah. Et dire que, regardez, eux, ils sont sur la liste. Mais Hassan ne l'est pas. Mais ça ne veut pas dire que Oussama Ben Laden et Zarqawi sont sur le vrai chemin. Car on a parlé d'eux beaucoup de fois et on a dit que ce sont les têtes des Tekfiri, des Khawarij contemporains. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de leur minhaj. Al-Muhim. Quant à la question que vient poser ici la personne, les savants ont dit, quand Allah ta'ala parle aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut parler à travers elles à toute femme croyante. Car il veut leur dire, celles-là sont votre modèle ou bien vos modèles. Comme leur mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux hommes. Elles aussi sont un modèle à vous les femmes, bi'idhnillahi ta'ala. Mais quand des fois, Allah subhanahu wa ta'ala les cite, elles, les épouses du prophète, alayhi salam, et en même temps, les croyantes, comme dans le verset du Jilbab, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين دي à tes épouses, à tes filles et aux épouses des croyants, ça c'est pour enlever la shubha. Car s'il avait dit dis à tes le djilbab, alors certains vont dire Alhamdulillah, il ne parle pas de nous, il parle de ses épouses, donc c'est elles qui doivent mettre le djilbab. Là, il a clarifié, il a dit à tes épouses, à tes filles aussi, et aux femmes des croyantes, pour qu'elles disent pas non, nous on croyait qu'il parlait sur, il s'adressait aux épouses du prophète, pour que aucune femme n'ait yani, ni un shubha, ni une excuse de dire je n'avais pas compris. Wallahu ta'ala alam, tfadl. Sinon la base, quand il parle d'elle, il parle de toutes les femmes. Tfadl.
Barakallahu fikoum, cher. Assalamu alaikum. Question suivante d'un frère qui dit y a-t-il des gens actuellement, pardon, y a-t-il des gens actuellement qui vivent sur terre et qui sont de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Si oui, cher, qui sont-ils et ont-ils un statut particulier? Barakallahu fikoum wa hayakumullah, cher.
Peut-être qu'il doit y en avoir, parce que le prophète sallam avait laissé des enfants, et les enfants ont donné des enfants, et comme ça, et ça c'est descendu. Mais le problème, c'est que personne, yani, ne le sait. Et c'est difficile, yani, de monter, yani, vers le haut, jusqu'à arriver au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que, il y a une fatwa maintenant des savants, des grands savants, plus spécialement de Cheikh Mohsen, Abdel Mohsen al-Badr, qui a dit quoi? Qui a dit que c'est interdit de nos jours de dire, ou de laisser dire une personne que je m'affilie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est interdit. Pourquoi? Premièrement, il n'y a aucune preuve. Ça peut exister, mais il n'y a aucune preuve. Et deuxièmement, si on laisse cette porte ouverte, tout le monde va dire, moi je m'affilie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Et moi j'ai entendu quelqu'un, ça fait pas longtemps, à la télé, il a dit moi, yani, je fais partie de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si seulement il disait ça, yani, par adoration. Ça veut dire on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est de sa famille, que Allah ta'ala yani, nous aide à propager sa sunna ou la ma'lish. Mais le problème, il dit ça, yani, pour yani, faire tomber les gens dans le piège. Et avoir de l'argent et le pouvoir et la renommée. Naam. C'est juste pour question de dunya. S'il dit ça, question de akhira. Ma'alish. Ils veulent propager sa sunna et propager le ilm. Mais naam. La sunna du prophète sallam, ma'alish. Mais cela, non. Il te dit comme ça juste pour que, lorsque tu le crois, naam, il te dit, alors embrasse ma main, embrasse ma tête. Dans le monde de l'argent, etc., etc. Et il va te prendre et ce que tu as comme argent. C'est ça son but, c'est ça le problème. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Quatrième question. Question d'une sœur qui vous demande, cher. Comment savoir si l'on aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus que notre propre personne, plus que notre famille? Car on le dit certes, mais comment savoir si l'on est sincère, cher? Barakallahu fikoum.
Pour le savoir, c'est dans la pratique et dans les épreuves. Dans la pratique et dans les épreuves. Je donne un exemple. Pour le savoir si tu l'aimes plus que toi-même. Je donne un exemple. La personne, des fois, n'a pas de barbe, c'est un homme. N'a pas de barbe dans le sens qu'il se rase. Il se rase. Ensuite, il essaie une fois la barbe. Il dit, voilà, il y a un hadith qui dit, il faut laisser la barbe. Ça. Il l'essaye. Maintenant, quand il laisse la barbe, lui, qui était beau, maintenant est devenu presque laid. Et quand il se regarde dans la glace, il dit, ça ne me va pas. Et même les gens, quand ils le rencontrent, ceux qui ne sont pas dans le din, bien sûr, ils disent, ça ne te va pas. Tu étais mashallah, tu étais beau, tu étais mignon, tu étais ceci. Maintenant, tu parais comme un vieux, tu parais comme un sale, quelqu'un qui est, tu parais ceci, cela. Non. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ma'lish. Car le prophète Aslam nous a ordonné de la laisser. Allah Ta'ala aime celui qui suit le prophète. Et il a dit, si vraiment vous m'aimez, Allah Ta'ala, alors suivez le prophète. Donc je la laisse, Inch'Allah Ta'ala, même si, moi personnellement, si ça revenait à moi, je ne l'aurais pas laissé. Même si les gens rient de moi et me critiquent. Et je la laisse. Ça veut dire, tu aimes le prophète Aslam plus que toi-même. Vous avez compris? Tu l'aimes plus que toi-même. Anas, radiyallahu ta'ala anhu, Anas a dit, je me suis assis avec le prophète Aslam. Il y avait quoi? Il y avait ce qu'on appelle en français, c'est à peu près la courgette. Ou plus précisément, la citrouille. Il a dit, le prophète Aslam l'aimait beaucoup. Aimait en manger. Il a dit, moi, je ne l'aimais pas. Mais j'en ai mangé. J'ai commencé à manger. À cause de quoi? À cause de, yani, ressembler au prophète Aslam. Ça veut dire, même si j'aime pas cette chose. Et c'est difficile pour manger quelque chose qu'on n'aime pas. C'est difficile. Vous avez essayé. Tu ne peux pas manger quelque chose que tu n'aimes pas. Mais puisque le prophète Aslam aime la courgette ou la citrouille, moi j'en mange ne serait-ce qu'un peu. Yani juste pour imiter et yani faire exactement ce qu'on faisait le prophète Aslam. Donc tu l'aimes plus que tu ne t'aimes toi. Et aussi, comme j'ai dit, dans les épreuves, des fois, yani, par exemple, imagine que yani, ton père dise une chose, par exemple, Nam, et que yani, le prophète Aslam dise le contraire, dise une autre chose. Et toi maintenant tu es confronté entre yani, dire ce qu'a dit le prophète Aslam ou dire ce qu'a dit ton père pour ne pas. Non. Et des fois tu es obligé, là c'est l'épreuve, on va voir. Est-ce que tu choisis ton père ou tu choisis le prophète Aslam et ce qu'il a dit? Si tu choisis le prophète Aslam, c'est que vraiment tu l'aimes plus que toi-même et que ton père et que n'importe qui. Si tu suis ton père et tu dis là, moi, c'est mon père, la tribu, la famille, etc. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas vraiment comme on devait l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Wallahu
Barakallah fikoum, cher. Ce n'est pas la cinquième question. Mais une sœur, cher, vous dit, quant au verset où Allah Azzawajal dit, et aux femmes des croyants, elle dit que vous avez dit que ça veut dire les épouses. Mais elle dit que dans une explication, elle a trouvé que les femmes des croyants veut dire toutes les femmes de ce croyant, donc à savoir les épouses, les filles, etc. Donc c'est plus général que les épouses. Si vous pouvez réagir, cher.
C'est elle qui a raison. Si moi j'ai dit les épouses, je me suis trompé. Je ne voulais pas dire les épouses. Naam, nisa al-mu'minin. C'est-à-dire toutes les croyantes. Toutes les croyantes. Je ne voulais pas dire les épouses. Si je l'ai dit, c'est que je me suis trompé. C'est elle qui a raison. Et barakallahu fiha pour nous avoir yani fait cette remarque. Sinon, les gens auraient compris que je parle seulement de celles qui sont mariées. Donc celle qui n'est pas mariée. Et le verset ne l'englobe pas. Non. Nisa al-mu'minin. Naam. C'est-à-dire, Naam. C'est-à-dire, toutes les croyantes, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal.
Non, mais j'en profite pour dire à tous ceux qui ont des remarques de nous en faire part. N'hésitez pas à nous en faire part si vous notez une chose, une erreur ou autre. Barakallahu fikoum. Question suivante d'un frère qui dit, donc la cinquième question. Cheikh, dans le hadith de Ikrima, lorsque Ali a brûlé des gens, comment pouvons-nous comprendre qu'il n'ait pas suivi l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à savoir de les châtier par l'épée? Barakallahu fikoum, Cheikh.
Naam, c'est pour prouver, bi'idhnillahi ta'ala, que la personne, malgré qu'elle ait de la science, ou bien soit proche du prophète, Islam, son gendre et son cousin, et un des grands savants de l'islam, et tu peux, yani, oublier un texte, oublier un verset, oublier un hadith, ou bien il peut t'échapper, naam, ou bien, il y a autre chose, il se peut que Ali, radiallahu ta'ala anhu, Franchement, ne savait pas ce hadith. Il se peut, naam. Il n'est pas infaillible, comme disent les rawafid. Il se peut qu'il n'ait pas entendu ce hadith. C'est pour ça que dans une autre version de Abu Daoud, quand il a entendu la réplique de Abdullah ibn Abbas, il a dit Wayha ibn Abbas, Wayha ibn Abbas. Wayh, en principe, c'est pour les critiques, mais ici, c'est pour les éloges. Masha'Allah, pour Ibn Abbas, vraiment, il a de la science. Wayha, il m'a rapporté un hadith pareil. Naam. Donc, c'est pas étonnant que tu sois le plus grand savant et que, ou bien, tu oublies le hadith, tu oublies de travailler avec, ou bien carrément, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas le hadith. C'est pas étonnant. Tfadlan.
Barakallah fikoum cheikh. La question suivante est quasiment la même, mais je vous la lis car il y a une chose en plus. Le frère demande donc, pourquoi Ali, radiallahu anhu, les a-t-il châtiés par le feu? Ne connaissait-il pas le hadith? Donc ça, vous y avez répondu. Et la deuxième partie, c'est n'a-t-il pas été conseillé avant d'agir? Je n'ai pas bien compris, merci de m'expliquer. Barakallah fikoum cheikh.
Question, tu as dit, j'ai compris la dernière phrase.
En fait, la question spécifique, c'est n'a-t-il pas été conseillé avant d'agir? Donc, est-ce qu'aucun compagnon ne l'a conseillé?
Non, il n'a pas été rapporté qu'il a été conseillé. S'il a été conseillé, peut-être qu'il n'aurait pas fait. La preuve, quand Abdullah ibn Abbas lui a ramené le hadith après les avoir exécutés, il a reconnu. Il n'a pas dit non, tu te trompes. Je devais les brûler. Mais il a reconnu. C'est une preuve que personne ne lui a dit ça avant de les brûler. Sinon, vous savez, les sahaba, ils étaient waqafin, waqafin indal haq. C'est-à-dire, quand tu leur ramènes le haq, le prophète a dit, il s'arrête. Naam. Donc, c'est pour cette raison, Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam. Tfadlal. J'ajoute une chose, à part qu'il n'a pas été rapporté qu'il était conseillé, surtout que, yani, pour la plupart des sahabas, c'est un grand savant. Pour la plupart des sahabas, vous savez que Ali, c'est vraiment quelqu'un qui avait, yani, de la science. Donc beaucoup d'eux ont dû se dire, puisqu'il va faire cela, c'est qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadlal.
Barakallahu fikoum cheikh. Question suivante d'un frère qui dit, cheikh, donc c'est la sixième question, ou la septième plutôt, quels sont les moyens d'aimer la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus que notre propre famille? Barakallahu fikoum cheikh.
Pour les aimer, il faudrait d'abord les connaître. Et connaître les textes, nosos, là, qu'il y a dans le Coran, s'il y en a, et les textes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur le fait, là, sur le, yani, disons, l'obligation de les aimer. Quelqu'un qui ne connaît pas les textes qu'il y a en ce sens, yani, il ne va pas les aimer. Peut-être même va les critiquer comme font les rawafid, les insulter au l'ayadu billah. Mais si quelqu'un connaît les textes qu'il y a et comment le prophète nous a enjoint de les aimer, de les respecter, de les mettre au-dessus de nos têtes, bien sûr, quand ils sont sur le droit chemin, on ne parle pas de ceux qui ont dévié ou là, non. Ceux qui sont sur le droit chemin, yani, on doit les mettre au-dessus de nos têtes, car quoi? Ce sont, yani, c'est la famille du prophète, al-islam. Ils ont un respect, yani, que n'importe quelle personne, et car ils ont un mérite beaucoup plus grand que n'importe quelle personne, et comme ça. Naam. Inch'Allah ta'ala, que ça viendra aussi, yani, les mérites de, yani, la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tfadlal.
Barakallah fikoum cheikh. Question suivante d'un frère qui dit, huitième question donc, huitième question d'un frère qui dit, je voulais savoir, cheikh, la différence entre les chiites et les chiites rawafides. Car une fois, j'ai parlé avec une personne qui me disait que certains chiites n'étaient pas d'accord avec les rawafides. Et que parler d'eux, selon lui, c'est comme si on parlait de certaines sectes soufis et on les désignait pour parler des sunnites. Barakallahu fikoum cheikh. Est-ce que c'est la même chose de faire la distinction entre tel et tel?
J'ai pas compris la comparaison ou la distinction ou là. Quand tu as dit soufi, je ne sais pas quoi. Tfadal.
Donc il a dit en fait, si on dit que, si on, en fait, on résume les chiites au Rawafid, c'est comme si on résumait la sunna aux soufis, par exemple, ceux qui vont faire le rapprochement. Pour parler des soufis, ils vont dire c'est ça les sunnites, regardez les égarements des sunnites, regardez ce qu'ils font. Ils vont prendre des exemples de soufis. Et il dit donc, dans ce cas, c'est pareil. Si on parle des égarements des Rawafid, tous les chiites ne sont pas les Rawafid. Donc il ne faudrait pas, selon lui, critiquer tous les chiites.
Nous, on reconnaît qu'il y a des chiites qui ne sont pas rawafid, mais qui sont très peu. Et que ce ne sont pas eux qui commandent maintenant en Iran, et encore moins, et aussi en Irak. Mais ce sont les rawafid qui commandent. Non. Car en fait, chiite, comme disent des savants, si on va se limiter au sens, il y a un littéraire et étymologique, chiite, ce sont ceux qui yani, soutiennent Yani, la famille du prophète Sallam. En ce sens, nous, c'est nous les vrais chiites. Car c'est nous qui vraiment aimons la famille du prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdoulilah, nous sommes chiites, nous ne sommes pas rawafides. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran, Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Attendez comment qu'ils ont expliqué ça en français, comment qu'ils l'ont traduit. Du nombre de ces Coroner, certes, fut Abraham. Le mot Shia, ça veut dire yani, soutenir quelqu'un yani, et être avec lui. C'est un peu ici comme dans coreligionnaire. Non. Donc, nous, on est Inch'Allah Ta'ala des chiites en ce sens. Mais Rawafid, ça veut dire quoi? Ça veut dire yani, l'exagération dans yani, le fait. Yani Zama d'aimer ou de suivre la famille du prophète, au point de quoi? De yani, insulter Aïcha, d'insulter Hafsa, d'insulter Abou Bakr, d'insulter tous les autres, de dire que ce sont des kofars, des pervers, etc. Et qu'il n'y a que 5 ou 6 ou 7. Et comme ça, ils disent. Ils disent qu'il y en a 7, et certains disent qu'il y en a 13. Et la plupart disent qu'il y en a 7 seulement parmi les Sahaba, yani, qui sont restés Sahaba. Tous les autres sont devenus des kofars. Et ils disent le Coran a été falsifié. Ils disent des choses horribles sur les épouses du prophète, des choses horribles sur les Sahaba, ce sont des kofars, des choses horribles sur le Coran, il a été falsifié, des choses horribles sur notre sunna, les livres, Bukhari, Muslim, tout ça. Ils disent tout ça, c'est faux, etc. Al-Muhim, comme disent les savants, ils n'ont aucune relation avec l'islam. Les Rawafid n'ont aucune. Ils ne cessent de pleurer sur le Hussein, ça? Le Hussein, chaque année, ils font sur lui des choses, l'Ashura, et pleurent jour et nuit. Alors que, tu vas lire la vraie yani, histoire tarikh, tu vas trouver que ce sont les Rawafid qui ont tué le Hussein. Allahu Akbar. Ceux qui ont tué le Hussein, c'est le Rawafid. Subhanallah l'adhim. Et ce n'est pas Ahl Sunnah. Comme il s'appelle avec Ibn Shoum, avec déjà son nom, il a été envoyé par eux, ils disent Yed, ils disent ils disent le fils de Muawiya. C'est pas vrai. Non, ni son fils ni son frère. C'est quelqu'un qui s'appelle Ibn Ziyed, non, qui a donné l'ordre à celui-là, le deuxième, qui a donné l'ordre à l'un des fils de Sa'd ibn Abi Waqqas. Non, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Al-Muhim, tfadlal. Je voulais dire, eux, ils disent c'est Yazid qui a tué Ousmane. Yazid, fils de Muawiya, qui a tué la. Ce n'est pas Yazid, c'est Ibn Ziyad. C'est tout à fait une autre personne. Quelqu'un, un gouverneur. Naam. Tfadlal.
Barakallah, fait comme cher. Question suivante d'une sœur qui dit, cher, 9e question, cher, lorsque l'on a une grosse baisse de foi et que l'on perd espoir, cela peut-il être une cause pour que notre doua ne soit pas exaucée? Barakallah, fait comme cher.
Quand on a une grosse baisse de foi, Yani, c'est la décadence, c'est grave si la personne ne se ressaisit pas et ne se corrige pas. Ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala ne va plus lui répondre et exaucer ses doigts. Au contraire, elle doit en faire beaucoup pour que Allah Ta'ala, yani, la remette sur le droit chemin. Et toute personne qui sent qu'elle est dans la décadence et que sa foi a rabaissé, c'est déjà un bon signe. Car quand Allah Ta'ala veut châtier une personne dans ce bas monde, naam, il la laisse pas ressentir cette chose. Donc elle baisse de foi et elle baisse jusqu'à ce qu'elle quitte carrément, elle apostasie, elle arrête la salat, l'ayadu billah. Donc le fait que la personne reconnaisse que sa foi a baissé, et elle reconnaît, elle le sait, c'est déjà un bon signe. Qu'elle revienne vite. Et qu'elle n'arrête pas de dire demain je vais prendre la douche, demain je vais commencer, demain je vais lire le Coran, demain je vais prier, demain je vais jeûner, demain. Demain, c'est pas sûr. Car demain tu vas dire après-demain, et comme ça. Et qui va te prouver que tu vas vivre d'ici demain? Peut-être qu'aujourd'hui tu vas dormir la nuit, tu vas pas te réveiller le matin. Donc, autant, yani, comme a dit Ta'ala, kanu yusari'una fil khayrat, ils concouraient. C'est pas une marcher vers le bien. Il concourait, courir vers le bien. Donc, on dit à cette personne, ils sont une grande baisse de foi. Wallah, ce n'est que toi la perdante. Naam. Et qu'est-ce que tu vas perdre? Tu vas perdre, c'est pas, tu vas perdre, on va pas, tu vas perdre 1000 euros, ou les 10 000, ou les 100 000 euros. Attention, tu vas perdre le ravissement d'Allah Ta'ala. Tu vas perdre le paradis éternel, attention, où il y a tous les délices, tous les plaisirs. Et encore, quand tu vas baisser deux fois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire le haram, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire le haram? Tu vas boire l'alcool. Après t'être saoulé, quand tu te réveilles, tu vas regretter. Tu vas te détester toi-même. Tiens, regarde comment je suis. J'ai passé la nuit à vomir. Ma tête qui tourne, ma tête qui me fait mal, j'ai perdu mon argent, j'ai désobéi à Allah, j'ai insulté, je ne sais mon père, ceci. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la zina. Après t'être rhabillé, c'est les remords qui vont commencer. Tu as enlevé le voile entre toi et Allah Ta'ala. Tu es maintenant devenu pervers, l'ayadu billah. Tu as fait le grand péché. La colère d'Allah Ta'ala va s'abattre contre toi. Tu vas vivre avec les remords. Tu vas vivre avec le cœur serré. L'angoisse, les chagrins, les maladies vont commencer. Les problèmes avec la famille, avec tout le monde. Tu ne vas rien gagner. Alors, ressaisis-toi. Dis A'oudou billah min shaitan rajim. A'oudou billah min shaitan rajim. Le shaitan veut me faire tomber dans le piège. Ressaisis-toi avant qu'il soit trop tard. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Tfadl.
Amin, barakallahu fikoum, cher. Question suivante, donc la 10e question. Question d'une sœur qui dit: Cher, je compte me marier, inshallah, avec un frère qui vit chez sa mère, donc qui vit avec sa mère plutôt. Étant veuve, il ne veut pas la laisser seule. La condition du frère a été que j'accepte de vivre avec sa mère, chose que j'ai acceptée. Je me pose une question concernant la awra et les tenues que je pourrais porter devant ma belle-mère. En effet, cher, pourrais-je porter, par exemple, des jupes qui arrivent aux genoux, des hauts avec des bras découverts, etc.
Afou, si je t'ai coupé parce que j'étais pas en train d'écouter, surtout le début, je l'ai pas écouté. J'ai pas entendu écouter. J'étais en train de lire ce qu'a écrit Bon, c'est un whisper, je croyais que vous l'avez lu. Ce qu'a écrit le frère Bouselma, comme quoi. Dans Mizan Ihtidal du Dahabi, que quelqu'un a dit à un autre, lui a dit: amène-moi un petit chien, je t'en fais sortir un grand rafidi. Amène-moi un petit chien, tu vas voir comment je vais faire de lui un grand rafidi. C'est pour cela, inshallah ta'ala, que je n'ai pas écouté le début. Barakallahu fik, de recommencer. Tfadla.
Naam, cher. Donc la question de la sœur était: donc je compte me marier, inshallah, avec un frère qui vit avec sa mère. Étant veuve, il ne veut pas la laisser seule. La condition du frère a été que j'accepte de vivre avec sa mère, chose que j'ai acceptée. Je me pose une question concernant la awra et les tenues que je pourrais porter devant ma belle-mère. Donc en effet, pourrais-je porter par exemple des jupes qui arrivent aux genoux, des hauts avec des bras découverts, etc. Barakallahu fikoum, cheikh.
La muslima, avec la muslima en général, doit être décente. Et maintenant, surtout avec sa belle-mère, qui risque de, si elle est vraiment religieuse, qui risque de la critiquer, de critiquer sa belle-fille. Non. Donc, en général, une femme avec une femme, quand elle s'habille, non. Elle s'habille, elle ne s'habille pas, comme elle a dit ici, jusqu'au genou. Non. Plus bas. Disons, jusqu'à la moitié de comment ça s'appelle du tibia. Non, jusqu'à la moitié du tibia. Elle ne monte pas jusqu'au genou. Ça, c'est pour le bas. Et maintenant pour le haut, quand elle montre non, le bras, elle peut montrer par exemple jusqu'au coude. Jusqu'au coude. Et un peu plus haut, entre le coude et l'épaule. Si par exemple elle a un bracelet, autrefois il mettait le bracelet là dans cet endroit, entre le coude et l'épaule. Non. Maintenant, si elle peut elle s'habille un peu plus haut que le coude, femme avec femme, c'est permis. Non. Sinon, jusqu'au coude, c'est les choses. Ensuite, pour ce qu'elle met le buste sur le buste, elle doit y aller. Elle peut montrer jusqu'au début de la poitrine, c'est-à-dire là où on met la chaîne. Quand une femme met une chaîne, même elle descend juste, par exemple, au début de la poitrine, mais elle ne montre pas sa poitrine. Elle peut montrer jusqu'au début de la poitrine. C'est comme ça qu'elle doit s'habiller avec une tenue décente, femme avec femme. La vraie femme, yani la musulmane qui pratique. C'est pas celle qui s'assoit avec des femmes en mini-jupe. Et elle dit, je suis avec des femmes, ça ne fait rien. Et avec des trucs où elle montre toute sa poitrine ou la moitié de sa poitrine, et elle dit, on est entre femmes. Non, tenue indécente. Tfadl.
Allah fait comme cher. Question suivante d'une sœur qui dit: Cher, j'ai deux petites sœurs atteintes d'une maladie génétique très grave et très rare. Mon père et sa seconde femme sont tous deux porteurs du gène de cette maladie. Et ma grande sœur et moi avons des risques d'être également porteuses de ce gène. Le médecin de ma sœur lui a conseillé de faire des tests génétiques afin de savoir si nous le sommes. De plus, ma sœur étant mariée, ayant un enfant d'à peine 2 mois, cela lui permettrait de savoir si sa fille est porteuse de ce gène et donc si elle a des risques d'avoir cette maladie. Pour ma part, je ne suis pas mariée et ma mère pense que je ne devrais pas faire ce test de peur que je refuse de me marier plus tard ou que ça fasse fuir l'homme qui viendra me demander un mariage, bi'idhnillah, s'il s'avère que je suis porteuse de ce gène. Je précise que la maladie se détecte dans les mois qui suivent la naissance et qu'il n'y a pas de remède connu par les médecins à l'heure actuelle. Selon les statistiques, il y a une chance sur quatre que l'enfant soit atteint de la maladie lorsque les deux parents sont porteurs du gène. Ma question chère est: est-ce nécessaire, obligatoire ou bien déconseillé pour ma grande sœur et moi de faire ce test génétique? Si cela nous est obligatoire, suis-je dans l'obligation de dire à mon prétendant que je suis porteuse de ce gène, comme dans le cas de la maladie grave? Barakallahu fikoum, cheikh.
Donc moi je n'ai pas compris dans la question si la personne a ce gène, yani ça gêne en quoi si par exemple elle va se marier. Est-ce que c'est contagieux, je veux dire? Est-ce que ça peut yani faire du mal au mari, hein? Et si maintenant ça peut, d'après elle, une fois sur quatre ou là, je ne sais pas, donner ça à l'enfant, yani quel mal? J'ai pas compris. C'est quoi le mal? Est-ce qu'il sera déformé? Est-ce qu'il sera handicapé? Est-ce que c'est ce que je veux savoir? Le temps qu'elle réponde, Inch'Allah Ta'ala, passe à une autre question.
En attendant les précisions, Cher a dit juste que c'est une maladie génétique très grave et très rare, Et donc, si une personne l'a et qu'elle se marie, il est possible qu'elle le transmette à son enfant. Mais en attendant, Cheikh, la personne concernant la question de la baisse de foi demande si la personne s'efforce de faire des actes d'adoration et de se rapprocher d'Allah, mais a du mal à remonter la pente, Cheikh, malgré tout. Qu'est-ce que cela signifie? Barakallahu fikoum, Cheikh.
Je lui dis, si la personne est sincère, elle va remonter la pente bi-idhnillahi ta'ala. Car Allah ta'ala a dit que celui qui s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui, yani vera, d'un demi-mètre. Et celui qui vient envers moi en marchant, je viens avec lui en courant. Est-ce que Allah ta'ala dit des choses, promet des choses et ne les tient pas? Donc c'est une question de sincérité. Je dis à cette personne, si vraiment tu es sincère dans ton cœur et que tu veux remonter la pente, tu la remonteras bi-idhnillahi ta'ala. Même si c'est difficile, la fin sera la victoire. Juste une épreuve, et Shaitan essaye de te mettre des entraves pour que tu vois que c'est difficile et tu abandonnes. Mais si tu résistes et tu fais le djihad de ton nefs, je te garantis bi-idhnillahi ta'ala que la victoire sera très proche, car tu es aidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque s'allie et vient du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala, le parti d'Allah, Hizbullah, c'est Hizb qui gagne, c'est lui le victorieux, bi-idhnillahi ta'ala. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, Cheikh. Avant de poursuivre, un frère demande, juste par rapport à ce que vous avez dit, Cheikh, sur les chiites et l'Iran. Je ne dis pas les soutenir, mais j'ai du mal à croire qu'ils sont alliés, car l'État juif s'oppose à ce qu'il ait la bombe nucléaire. On dit qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs armes. Ils ne reconnaissent pas l'État juif, donc, et concernent les vidéos, et concernant les vidéos, les images, je ne m'y réfère pas. Donc, Il ne se réfère pas aux vidéos et aux images, car certains prennent aussi des images où l'on voit des Saoudiens avec George Bush autrefois pour faire croire qu'ils sont alliés. Donc, Cher, il n'est pas totalement convaincu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Cher?
C'est possible de répéter la fin de Jazakallah. Qu'est-ce que tu as dit sur George Bush ou je ne sais pas quoi?
En fait, il y avait des photos qui circulaient sur Internet et qui montrent Malik Fath, rahimahullah, proche de George Bush, des fois qui se prenait par la main ou autre, pour montrer qu'ils étaient très proches. Et certains disent, regardez comment l'État saoudien est un allié des Américains, en fait. Etc. Voilà.
D'accord, je lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? A dit l'ulama'u warathatul anbiya. Il a dit les savants sont les héritiers des messagers. Si pour toi, les savants d'islam sont les héritiers du messager, alors sache que les savants de l'islam, entre autres Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah et beaucoup d'autres, avant eux et après eux, on dit que les Rawafid sont les ennemis de l'islam et des musulmans. Et que jamais il n'y a eu une guerre contre les musulmans sans que les Rawafid ne soient avec les kuffars contre les musulmans. Tu peux lire l'histoire, tu vas trouver que c'est vrai. Et que les Tatars eux-mêmes, quand ils sont venus, ils étaient quoi? Leurs alliés, c'était les Rawafid. Contre les musulmans. Contre El Sunna. Tu vas lire seulement l'histoire. Et ce que disent les savants, tu n'as besoin ni de photos ni rien. Ni de photos en disant que peut-être c'est pas lui, on l'a mis avec lui, on l'a mis. Malish. Suis alors les savants. Suis les savants de l'islam. Qu'est-ce qu'ils disent sur les Rawafid? Est-ce que ce sont les alliés des kofars ou bien les alliés des musulmans? Eh bien, idhnillahi ta'ala, tu trouveras la réponse chez eux. Idhnillahi ta'ala. Naam, tfadlal.
Barakallahu fikoum, Cheikh. Donc la sœur a apporté des précisions par rapport à la maladie génétique. Elle dit que ça ne peut pas faire de mal au mari, mais l'enfant peut avoir la maladie. Et la maladie est neurologique, donc atteint les nerfs. Et l'enfant ne parle pas, ne bouge pas et avec le temps ses membres se figent et l'enfant en vient à manger par sonde nasale. Et d'après les médecins, l'enfant qui a cette maladie a une espérance de vie d'environ 9 ans. Et l'enfant est sous machine respiratoire en plus.
Naam, dans un cas pareil, si la prétendante sait qu'elle a cette maladie, sait qu'elle a cette maladie, elle ne peut pas yani, la cacher au prétendant. Mais elle doit lui dire que voilà, yani, ça a été prouvé que j'ai telle et telle maladie. Naam, elle ne doit pas le lui cacher, bi-idhnillah, car c'est quelque chose yani, de grave et qui peut yani, entravé, qui peut, si jamais le mari plus tard, il dit si je savais, il m'avait dit ça auparavant, je ne me serais pas marié. Naam. Quant à, puisqu'elle n'est pas sur la voie, ce n'est pas obligé pour elle de faire la démarche pour savoir si elle est porteuse du gène. Naam. Tant que, yani, il n'y a rien qui dise que, yani, elle a cette maladie. Et que, yani, c'est obligatoire de la voir. Excellent, yani, comment on dit, yani, ça vient par héritage, yani. Il y a un mot en français, je l'ai pas trouvé maintenant. Héréditaire, voilà. Il n'y a pas une preuve à 100% que c'est héréditaire. Il n'y a aucune preuve que je l'ai. Que je l'ai. Je ne suis pas obligé d'aller chercher si je l'ai ou je ne l'ai pas. Non. Ce n'est pas comme le sida ou là. Non. Donc dans ce cas, ce n'est pas obligé d'aller yani, chercher, fouiller pour après quoi? Yani, pour après yani, trouver la mauvaise nouvelle peut-être et qui va la gâcher elle et yani, entraver yani, tout son avenir. Wallahu ta'ala alam. C'est mon avis, bi'idhnillahi ta'ala et peut-être aussi ma nasiha.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit, ou plutôt elle demande une explication du hadith ci-dessous. Car il est une habitude dans la famille de la sœur de s'emprunter des choses, par exemple le sel, le sucre, etc. Et lorsqu'une personne manque de cela, elle demande à ses voisins. Et en fait, même cela, le mari refuse que sa femme en donne. Le hadith s'applique-t-il donc pour le sel et le sucre? Et voici le hadith, cher. Je le lis et juste après, je vous le colle, inshallah. D'après Abu Umama, qu'Allah l'agrée, j'ai entendu le prophète salam, dire lors de son sermon, l'année du pèlerinage d'adieu, la femme ne dépense rien de la maison de son mari sans son autorisation. Quelqu'un a dit, ô messager d'Allah, pas même de la nourriture? Le prophète salam, a dit, ceci est le meilleur de nos biens. Rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan, qu'il a authentifié, et il a été également authentifié par Cheikh Al-Albani dans sa correction de Sunan Tirmidhi. Donc voici le hadith.
Ibn Mohammed, est-ce que tu es avec nous? Car tu as dit voici le hadith et je ne vois rien. Tu as dit voici le hadith. Est-ce que tu voulais l'afficher? Je ne vois rien. Ou peut-être là tu l'as affiché, mais moi je ne le vois pas.
En fait, cher, comme il y avait des espaces sur Paltalk qui n'est pas passé, donc je vais le coller en plusieurs fois. Et donc le micro a sauté, vous ne m'avez pas entendu quand je l'ai lu et quand j'ai reposé la question. Alhamdoulilah. Donc vous avez même entendu la question, cher, ou pas? Ou est-ce que je la repose? Cher, dites-moi si je dois relire ou pas la question. Naam, cher. Donc, je pose cette question. Après, je reviendrai sur la question de la sœur qui est malade, inchallah. Ou qui est peut-être malade, plutôt. Donc, par rapport à ce hadith, cher, la sœur dit, il est donc une habitude dans la famille de la sœur de s'emprunter des choses, telles que le sel, le sucre, etc. N'importe quelle chose. Donc lorsqu'une personne manque d'une chose, elle demande à ses voisins ou autres. Et en fait, même cela, le mari refuse que sa femme en donne. Donc le hadith s'applique-t-il donc pour du sel, du sucre, etc. Donc ce hadith en question. Lorsque le prophète a.s.w. a dit pas même de la nourriture, il a répondu, ceci est le meilleur de nos biens. Donc est-ce que dans ce cas, le mari a raison déjà d'interdire à sa femme de donner le sel, le sucre, etc. aux autres? Et est-ce qu'elle doit lui obéir en fait?
Non, je pense que si son mari lui interdit cela, qu'elle doit lui obéir tant que quoi? Tant qu'elle a ce qu'elle donne, ça appartient à lui. Non, ça appartient à lui. Et ensuite, s'il lui a interdit, maintenant, si on devait donner, lui a interdit. C'est lui qui aura des péchés. Parce que elle, maintenant, en faisant le contraire et en donnant, alors que lui, il ne veut pas, il se peut que ça arrive quoi? Il se peut qu'il la répudie. Il se peut qu'il dise, celle-là, elle veut pas. Elle veut me faire des problèmes. Moi, je lui dis, il faut pas donner aux voisins. Elle donne aux voisins. Elle ouvre ma porte et elle parle avec les gens. Et je sais pas, il sait pas. Et il peut même lui trouver des problèmes et peut-être même y en pas là. Donc maintenant, si elle donne pas, ou elle n'ouvre pas la porte, c'est pas parce qu'elle veut pas donner aux voisins. Allah Ta'ala sait dans son cœur qu'elle veut donner. Et que c'est une personne qui aime le bien, etc. Mais à cause de son mari, elle ne donne pas, et c'est lui qui aura les péchés. Mais il n'est pas là. Quant à elle, elle essaye de s'éloigner, de ne pas le contredire, pour que, par rapport à l'union, pour ne pas faire des problèmes et se trouver peut-être divorcé, se trouver chez ses parents. Non. Pouvez-vous expliquer ce hadith? Le hadith, il est clair. Le hadith, il est clair. Et les savants, ont fait quoi? Les savants ont, comment dirais-je, ont divergé sur le fait, est-ce que la femme peut donner des choses sans mari, des choses de la maison, sans le consentement du mari ou pas? Et il y a trois avis. Le premier qui dit qu'elle ne peut pas donner, à cause de ce hadith et d'un autre, qui dit toute femme qui croit en Allah et au jour dernier ne donne pas même de son bien à elle, son argent, sans l'autorisation de son mari. Ils ont dit, si le hadith dit, elle ne donne pas des choses qui lui appartiennent, qu'en est-il si les choses appartiennent à son premier avis? Deuxième avis, qui dit, elle peut donner. Ils ont cité le hadith authentique du prophète, alayhi, quand il a fait khutbat l'Aïd, le serment de l'Aïd. Ensuite, il s'est approché des femmes. Il leur a fait un serment et il leur a dit, Tasaddaqna, faites l'aumône, j'ai vu que vous êtes la plupart des gens de l'enfer. Elles ont commencé à donner de leur boucle d'oreille et de leur quoi? Et de leur bague. Elles ont dit, les savants ont dit, elles ne sont pas allées demander l'avis de leur mari, consentement de leur mari. Mais elles ont donné, sans que le mari ne sache. Donc c'est une preuve, une femme peut donner sans le consentement de son mari. Et troisième avis qui dit, Hajj Asqalani qui l'a cité dans Fethel Bari, elle peut donner si ça dépasse pas le yani un tiers. Ça dépasse pas de un tiers de yani ce que possède yani ce qu'elle possède. Naam. Et certains qui ont dit qu'elle peut pas donner, ils ont répondu au hadith qu'on a cité où le prophète a dit, faites l'aumône, ils ont commencé à donner de leurs bagues et de leurs boucles d'oreilles et de leurs chaînes. Elles ont dit, en fait, ce hadith, yani, on ne peut pas dire de lui qu'elles peuvent donner sans le consentement de leur mari. Car ce hadith, c'est le prophète Hassan lui-même qui leur a enjoint de donner. Ils ont dit, et tout musulman et musulmane doit obéir au prophète. Donc ici, ils ont dit, c'est un cas spécial. Et Allah Ta'ala dit, l'a dit le prophète, yani prime sur les croyants et les croyantes. Donc, il a plus de droits. Yani, il a même plus de droits sur le mari. Si ton mari te dit pas, ne fais pas cette chose, et le prophète te dit, fais-la, ou bien le contraire. Ton mari te dit, fais cette chose, et le prophète te dit, ne la fais pas. À qui doit-on suivre en premier lieu, le mari ou le prophète? Le prophète. Ils ont dit alors, même si le mari avait interdit de donner par exemple la bague et les bijoux, et le prophète a dit, fais-le au monde, donne. Ils ont dit, tu dois donner. Ils ont dit donc, ce hadith, cette situation est un cas un peu spécial. Donc, tout ça pour dire que. Et il y a aussi des hadiths où Aïcha radiallahu ta'ala yani et une aussi des épouses du prophète a donné yani quelque chose yani sans que le prophète ne le sache. Où est-ce qu'on était là? Et je dis entre parenthèses à la personne qui a dit que yani peut-être les Alawafid ne sont pas les ennemis des ne sont pas les amis des Américains ou je ne sais pas quoi. Alors, je demande à cette personne si elle peut nous répondre, si la personne est toujours présente avec nous, si elle peut nous répondre pourquoi. Pourquoi Hassan Nasrallah du Liban a toutes les armes qu'il a, même des fusées, et il n'est pas sur la liste des terroristes. Qu'il nous réponde pourquoi Hassan n'est pas combattu par les Américains et pourquoi ils ne l'ont pas envoyé, ils ne lui ont pas envoyé un commando spécial. Commandos, Naam, pour le prendre et pour l'arrêter et pour l'emprisonner. Tfadl.
Je reviens sur la question de la sœur par rapport à la maladie génétique. Elle demande par rapport à sa sœur, qui elle est déjà mariée et a déjà un enfant, est-ce que vous lui conseillez donc de faire les recherches ou pas?
J'ai pas compris de quelle recherche tu parles et je conseille à qui? À celle-là qui n'est pas mariée ou bien à l'autre? Et quelle recherche? Tfadl.
La recherche voulait dire les tests génétiques, afin de savoir si elles ont cette maladie ou pas, si elles sont porteuses du gène ou pas. Donc, est-ce que vous conseillez à sa grande sœur, qui est mariée et qui a un enfant d'à peine 2 mois?
Moi, personnellement, je ne lui conseille pas. Je ne lui conseille pas, hein, tant qu'il n'y a rien, yani, qui montre cela. Sauf s'il y a une chose. Sauf s'il y a quelque chose qui dit que plus on connaît, yani, la maladie, plus on la découvre tôt, plus, yani, c'est facile de la soigner. Si cette maladie est de ce genre. C'est-à-dire, si on la découvre tôt, on peut la soigner mieux que quand on la découvre trop tard. Si cette maladie, yani, rentre dans cette règle, dans ce cas, c'est bien, yani, ce serait même conseillé de faire des tests dès maintenant. Mais si ça n'a aucune relation avec ce que je dis, donc c'est pas la peine de chercher et de fouiller. Mais idhnillahi ta'ala.
Allah fait comme cher. Question suivante d'une sœur qui dit, cher, voilà ma question. Est-ce une obligation pour la femme d'accomplir le jour du vendredi qu'elle se rende à la mosquée ou pas? Donc, est-ce que le rousl de Yom el-Jumu'ah pour la femme est une obligation qu'elle se rende à la mosquée ou qu'elle ne s'y rende pas? Barakallahu fikoum cher.
Le rosse du Jumu'ah est obligatoire pour la personne qui va à la mosquée, que ce soit un homme ou une femme. Comme a dit Cheikh Fawzan ou Cheikh Rabia. Afdahoumallahu ta'ala. Naam. Pourquoi? Parce que quand on va à la mosquée, il y a les odeurs, etc. et la sueur, etc. etc. Naam. Mais si la personne va rester à prier à la maison, que ce soit un homme ou une femme, naam. Les deux ne font pas le rosl bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Si on dit que le rosl est obligatoire, car il y a des. Si on dit le rosl du Jumu'ah est obligatoire, ça veut dire obligatoire pour celui qui va à la mosquée. Naam. Que ce soit un homme à 100%. Mais même pour la femme, les savants, les muhakkikoun, naam, comme Cheikh Fawzan ou bien Cheikh Rabi', l'un de ces deux a dit c'est obligatoire à elle aussi. Pour faire le rosl si elle va à la mosquée, bi'idhnillah ta'ala. Si elle n'y va pas, c'est pas la peine, bi'idhnillah ta'ala. Naam. On va arrêter ici, inshallah ta'ala, parce que j'ai pas encore mangé, il se fait tard. Je suis un peu fatigué. Femme, je te décrobe là. Si tu as quelque chose à dire.
Rien de spécial, sinon, Barakallah, je voulais juste dire qu'Allah récompense donc les frères et sœurs parce qu'ils ont bien respecté les consignes cette fois-ci et qu'on leur avait donné juste avant. Et aussi demander aux personnes d'excuser, mais comme vous voyez, Cheikh a accordé plus d'une heure aux questions. Donc il a répondu quand même à 13 questions, et même plus avec certaines précisions et autres. Et malgré tout ce temps, on n'a pas pu traiter toutes les questions. Donc, Barakallahu fikoum pour votre compréhension. Et donc, prochain cours, Inch'Allah, mercredi. C'est tout ce que je veux dire. Wa Barakallahu fikoum, Cheikh, avant toute chose. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
Barakallah pour avoir assisté. Inch'Allah ta'ala, je pense, Wallahu ta'ala alam, que c'est mieux yani, si la plupart d'entre vous ont ce qu'on appelle un smartphone, que si la plupart de vous l'ont, comme ça, parce que moi, quand on m'envoie des questions, quand c'est écrit, par écrit sur le mail, etc., pour dire la vérité, que j'ai pas de temps pour répondre, ou du moins pour répondre à toutes les questions. Mais si vous avez le smartphone, comme ça, inshallah ta'ala, je vais acheter yani, ce qu'on appelle une ligne téléphonique, yani, la puce Sadiq, et vous donner le numéro. Comme ça, si ce sont des sœurs, là, elles m'écrivent la question, et moi je leur réponds en parlant. Parce que sur le WhatsApp ou bien sur le Viber maintenant, il y a un petit micro sur lequel je peux parler direct, en direct. Je trouve la question, je la lis et je prends yani, le petit micro, je réponds par audio, bi'idhillahi ta'ala. Inch'Allah ta'ala, très bientôt, inch'Allah ta'ala. Subhanak, comme ça, yani, au moins, yani, vous posez vos questions, inch'Allah. Subhanak, l'amour, bihamdik, shahadu, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.